Je me propose depuis la fenêtre de vous présenter mon contexte dans lequel nous travaillons. C'est un milieu qui est un peu prosaïque. On voit les véhicules d'entretien des services de la ville, les ateliers. On voit un milieu urbain dense, peut-être pas favorisé, mais où on voit les habitants utiliser le moindre espace extérieur qui est mis à leur disposition. Et donc, des espaces publics de qualité leur sont vraiment bien nécessaires, voire indispensables. Et puis, si on zoome un petit peu, oh là, pardon. Voilà, on peut en percevoir aussi des choses d'une autre nature qui nous stimule au quotidien. Et encore aussi dans le lointain, vous voyez la belle courbe d'un terril. On a toujours quelque part en arrière-plan Liège le grand paysage de la vallée et des collines qui enserrent le site urbain. Donc, c'est avec tout ça qu'on travaille et qu'on compose au quotidien. Donc, vous l'avez compris, nous faisons partie d'un grand département qui s'occupe de la gestion de l'espace public et qui comporte 635 agents, mais dont 90% d'entre eux sont occupés principalement à la maintenance au quotidien, l'entretien, plantation, propreté, tandis qu'on peut distinguer aussi dans la partie travaux les équipes qui s'occupent de la gestion des grands ouvrages d'un réseau ou de l'aménagement, rénovation des espaces publics, voiries, et dans lequel nous situons notre petite cellule qui est passée de 1 à 4 personnes, qui s'occupe de l'art et de l'aménagement urbain. Donc nous sommes au quotidien, nous côtoyons au quotidien des collègues qui s'occupent de la maintenance et de la gestion de l'espace public. Non, nous avons des comptes à leur rendre au quotidien, dans les propositions, et peut-être on a des retours aussi des aménagements qui ont été faits. Les principales interactions, ce sont avec le service de l'urbanisme, qui est lui chargé davantage de la planification, de la programmation, et aussi un partenaire privilégié, le service du logement et la régie foncière, qui développe à l'échelle des quartiers des programmes de rénovation urbaine où s'inscrivent aussi dans le cadre de projets européens. Alors les questions, elles nous viennent un petit peu de toutes parts et sont d'échelles de nature très variées. Ça peut varier d'un bout de trottoir à coin de rue ou la restauration de sites patrimoniaux, l'aménagement de sites de plusieurs hectares, comme les coteaux de la Citadelle en particulier. Elles émanent des services publics gestionnaires en interne, communaux ou régionaux, des acteurs privés, des associations, des citoyens. Les questions, elles sont toujours relayées par le collège communal et c'est lui qui décide de toutes les options, de toutes les propositions qui vont être développées. C'est un point très, très important. Nous devons être très proches du collège communal et c'est lui qui a le pouvoir de décision. Donc, alors, de toutes on va dire, ces expériences, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on travaille sur un même territoire. On a dégagé des lignes de conduite, donc que je vais illustrer. Donc chaque question mérite réflexion critique. Je crois que je ne contredis pas mes prédécesseurs en insistant sur l'aspect, enfin les trois aspects doivent être posés, que ce soit même pour la pose d'un banc ou plantation d'un arbre. C'est évidemment l'aspect, je schématise très très fort, fonctionnel, mais aussi l'aspect spatial. Là, c'est notre affaire d'architecte de comprendre et de traduire ça, le rapport au contexte, tenir compte des perceptions. Et puis le troisième qui est essentiel aussi, c'est évidemment l'aspect identitaire, le sens, l'histoire, la mémoire. C'est une vieille photo. Le mobilier a peut-être un peu changé, mais des petits espaces très très emblématiques et souvent négligés. Bon, c'est les carrefours. On a vu des exemples d'aménagement ou qui sont souvent un ramassis de matériel de fonction, d'équipement qui sont plus ou moins disons organisés, alors que ce sont vraiment des espaces d'entrée de quartier, d'entrée de rue, des lieux de passage vraiment très fréquentés et qui méritent vraiment une réflexion sur justement ces trois aspects, le fonctionnel, oui, mais l'espace et le sens. Donc un petit exemple ici d'un espace, je vous montre aussi des espaces qui, celui-là, il a près de 20 ans. Je crois que c'est important aussi de pouvoir considérer comment les espaces tiennent sur la durée. C'est ici encore un de ces carrefours où il y avait Bulavert, arrêt de bus, toute une série de fonctions et d'équipements qui ont été intégrés, mais en considérant peut-être un contexte plus large pour générer un espace, on va dire pas de silence, mais un espace de passage plus généreux. La question du sens aussi a été abordée. C'est un lieu de passage très très fréquenté, la vitesse est là, et il y a eu une petite réflexion aussi avec un petit collectif sur la question du temps, qui a été traduite par un arbre, Ginkgo biloba, et puis cette thématique a été déclinée aussi avec une opportunité avec un atelier de gravure qui a interprété les feuilles, la forme des feuilles des ginkgo en les intégrant ici dans le revêtement. Donc c'est un lieu de passage sur des petites choses qui parlent à ceux qui passent et qui pas trop vite et puis qui prêtent attention à leur ville. Une autre opportunité ici, c'était intégrer un arrêt de bus. Donc on a développé un réaménagement de tout un de ces carrefours du tissu 19e, souvent très large avec beaucoup de parking, etc. Et là, on a intégré l'idée du chemin de l'école. C'est un quartier aussi, un arrêt de bus fréquenté par les écoliers. On a pu faire un atelier d'écriture sur les pierres du trottoir et des gravures sur pierre. Elles sont aussi là depuis une bonne quinzaine d'années et racontent les itinéraires des écoliers. Une autre ligne de conduite un petit peu, enfin, conséquent, chaque réponse n'est pas une œuvre en soi, ne doit pas nécessairement être significative. Je mentionne les travaux invisibles, mais parfois c'est tracer un chemin, il semble avoir toujours été là, il peut changer la vie d'un quartier ou apporter beaucoup de plaisir en créant des accès à des espaces autrefois inaccessibles. Un banc ne doit pas toujours être un objet de design ou se présenter comme tel, même si ça peut trouver tout son sens et ça peut vraiment caractériser certains espaces. Il faut d'abord aussi qu'il soit bien placé, qu'il crée de la sécurité et du bien-être et qu'il y ait des choses à y faire ou à y voir. Alors, les travaux invisibles qui nous coûtent beaucoup de travail, c'est libérer l'espace en intégrant les réseaux. Donc justement, toute cette accumulation d'objets sur l'espace public, ça demande vraiment beaucoup d'énergie pour essayer de les coordonner, de les intégrer et de manière à ce qu'on ne les voit pas et à ce qu'il y ait quelque chose qui est de l'espace. Chaque réponse n'est pas une œuvre en soi On peut aussi, ça a été largement évoqué de manière beaucoup plus détaillée, structurée, mais les interventions ponctuelles trouvent leur sens par leur mise en réseau ou elles font réseau. Les réseaux écologiques, évidemment, qui donnent un sens aux moindres installations végétales, même très très limitées. Le projet d'écoteau de la citadelle, dont vous en avez peut-être touché un mot, on a érigé quasiment cette pratique en méthode, en fait, pour une manière, pour pouvoir aborder des sites de grande ampleur, mais par des petits points. J'appelle ça la technique du tissage. Donc on l'a, les coteaux de la citadelle, voilà, c'est 86 hectares. Comment aborder, je ne vais pas détailler ici, tout simplement, on a abordé ça en tissant des liens avec d'autres éléments de la ville, en tissant des liens avec les quartiers. En fait, c'est un ensemble de 18 sites qui ont été aménagés sur une durée d'une quinzaine d'années et on a tissé ainsi un réseau d'itinéraires en boucle connecté au quartier, en commençant vraiment, en additionnant et en conjuguant et les moyens et en multipliant les synergies. On a développé, ça c'est côté rive gauche de la Meuse, on a exporté le processus aussi pour aborder le site de la Chartreuse, un site de 19 hectares, un ancien fort qu'on a attaqué un peu de la même manière aussi. Alors, démarche plutôt que vision, souvent on demande, que voyez-vous comme aménagement? Mais l'idée, c'est en général, au départ, pas grand-chose, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, il faut avancer en faisant. Écouter les questions, les demandes, dialoguer avec les intervenants à toutes les étapes du projet, et ça a bien été dit. Le site, c'est une réalité physique, il faut l'arpenter, il faut l'observer, le questionner, il faut représenter pour comprendre d'abord soi-même et aussi pour dialoguer. C'est un peu trivial, j'ai ajouté plutôt que vendre, mais parce que parfois les outils de représentation sont utilisés comme ça. Alors partager, rechercher les collaborations structurelles. Les spécialistes, les experts, les intervenants, entre guillemets, classiques du projet ou conjoncturels. Parfois, c'est le fait d'une rencontre ou d'une opportunité qui s'offre, qui permet d'ajouter vraiment un plus au projet. Ici, mais à une échelle un peu plus grande, un espace de carrefour. Qui était encombré de, malheureusement, c'est des gens qui a aussi, il y a 20 ans, cet espace-là. Je n'ai plus les photos d'avant, mais, et qui encombré de voitures, d'un tas de fonctions, mais où on décelait quand même des petites trajectoires transversales. Donc, les fonctions en dialogue avec les habitants, les principales fonctions, je dirais utilitaires, on les a organisées sur le pourtour, avec l'analyse de la topographie et de l'histoire, on permet aussi de formuler clairement les caractéristiques du site et de s'appuyer dessus pour créer des sortes de terrasses horizontales qui accompagnent, on s'aperçoit que ça accompagne les alignements d'arbres, et puis de créer les cheminements transversaux. Donc le thème, c'était quelque part descendre en ville. Descendre en ville, c'est pas seulement, ça peut être un trajet très, très joyeux. Alors l'idée, c'était aussi d'accompagner le Jardin Wicket, c'est le nom d'un poète. On cherchait aussi à répondre à ce poète en disant, ben, ce serait pas mal en descendant en ville de rencontrer un poème sur son chemin. presque fortuitement aussi, on a rencontré le poète qui habitait à deux pas de là, qui connaissait très très bien le site et qui nous a fait un magnifique lien avec une petite fontaine qui se trouve ici et qui était, disons, un peu isolée, mais particulièrement prisée par les habitants. Et donc voilà la petite montée Jacques Isoard, qui est vraiment un grand poète, et d'une extrême générosité, qui nous a écrit cette petite phrase qui relie finalement tous les éléments du site. Donc voilà, qui se présente. Une autre collaboration qu'on essaie de faire, les jardiniers des plantations, en fait, qui apporte la sorte de touche finale à l'aménagement d'un espace intérieur lié à un complexe de cinéma. Cet élément qui recevait l'arbre unique, et on a voulu apporter au cœur de la ville quelque part de nature, un élément de nature. Ce sont des robiniers qui ont été découpés sur les coteaux par les bûcherons, et donc ils réalisent ici ce platelage et ils mettent un peu la touche finale à cet aménagement. C'est important de pouvoir intégrer le plus tôt possible dans le processus et aussi valoriser les services qu'ils vont avoir à les gérer sur le long terme. Ici aussi des petits sommets doux, c'est des moments aussi où on a pu associer des enfants à l'aménagement d'une fontaine, ou bien planter des bulbes dans des quartiers un peu difficiles où c'est important de les intéresser aux plantations et d'y prendre part. Alors, continue, ligne de conduite, on a plus de deux. Apporter des réponses élémentaires mais non sommaires. Donc ça veut dire générer des parcours ou des espaces qui sont qualifiés par leur proportion, mais aussi surtout par leur rapport au paysage, avec ainsi de là quelques ponctuations plus architecturées ou imagées. Et créer des socles, ce qu'on appelle des socles, c'est-à-dire des espaces libres pour des appropriations, des usages à venir. Donc, un langage très simple, très sobre. Ici, on est sur les coteaux de la citadelle. La gravure représente la situation antérieure de terrasses qui sont en proximité du centre-ville. On n'a pas du tout veillé à reconstituer cette architecture et cette ornementation, mais simplement conserver les structures, les maintenir et les rendre accessibles au public. Alors ici, on voit aussi ces espaces, les espaces ici sur les terrasses, sont finalement en soi des espaces adossés à la colline, et ils sont vraiment qualifiés par le paysage sur lequel ils s'ouvrent et par la possibilité de pouvoir s'y asseoir et en profiter. La même chose avec un sentier qui traverse un sous-bois. L'important là, c'est le sous-bois. Et on voit aussi sur la plateforme, le belvédère, c'est un des endroits qui surplombe vraiment le centre-ville, où on a à la fois le paysage, qui est évidemment l'élément majeur, mais qui est aussi convoqué dans le sol de la plateforme et qui est représenté. Donc l'interaction entre les deux est assez forte. Alors, ce qu'on entend par socle est peut-être illustré de manière un peu littérale ici par un aménagement. C'est un socle qui a été imposé parce que le parking a été maintenu en souterrain sur un espace qui contenait un théâtre. Donc on a réaménagé la surface. Donc c'est un grand espace ouvert et libre qui est qui est offert aux habitants et qu'on a muni d'une boîte à outils donc qui permet de pouvoir déployer du matériel ou des éléments d'animation suivant les opportunités et pouvoir t'approprier cet espace. Donc là, c'est de l'espace au cœur d'un quartier qui est particulièrement dense, chargé d'activités. Je vais déborder. Qu'est-ce que je fais? Donc, je voulais développer le processus, disons, un peu plus complet ici sur un petit parc de quartier. C'est un parc d'un hectare qui a été aménagé sur le site d'un ancien hospice dans le quartier de Sainte-Marguerite. 1990, c'est le moment où s'est constitué un collectif d'habitants qui a réclamé l'aménagement d'un espace public sur le site de cet ancien hospice. Et 2015, c'est l'inauguration du parc. Donc voilà, on voit vraiment cette grande poche verte l'hospice. Qu'il a généré et le contraste avec un quartier très 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 dense, sans espace public et très peu d'espace vert. Donc c'était vraiment plus qu'un souhait. Donc un programme qui s'est inscrit dans les axes d'un projet de quartier et d'un schéma de directeur de rénovation urbaine. Donc on est dans une ville QI ici, de Sainte-Marguerite. Donc avec un processus entamé autour des années 2000 et qui commence à porter ses fruits. Les objectifs fixés dans le cadre de ce programme, améliorer la mobilité, recréer des liaisons à l'intérieur du quartier et vers les autres quartiers. Donc en ce qui concerne le parc, faire une liaison entre le haut et le bas, et créer un chemin de liaison public. Favoriser les rencontres, les contacts entre les habitants, et avec un accent particulier pour les enfants, lieu de rencontre parents-enfants des quartiers riverains. Changer positivement l'image des quartiers. Donc, mais en fait, le site était scindé en deux propriétés. C'était la partie qui pouvait être acquise, pour lequel il y a eu tout un long processus pour le rendre disponible. C'est une propriété du TPS et créer les deux accès. Des mesures aussi associées, donc un immeuble fort opportunément flambé et donc a pu être acquis pour créer un accès vers le parc. Une consultation d'une ruisson aussi qui a dû être déplacée, qui était complètement obsolète. Et peut-être ce qui donnait peut-être au départ l'idée de réserver cet espace ou en tout cas donner une dimension particulière pour l'attribuer, en tout cas pour les enfants et petits-enfants. Alors, le parc... le site en fait a fait fantasmer pendant longtemps, puisque 1990, 2015, ça fait 25 ans, le quartier, parce que quelque part il était fermé dans des murs, on ne pouvait pas y entrer, et puis on voyait cette masse de végétation dans un quartier très très minéral. Donc les habitants, ils voulaient tout dans ce parc, plein de sports, etc. À l'intérieur, voilà, c'était le royaume des invasives avec toute une vie sauvage. Mais enfin, il a fallu avancer en faisant. En fait, c'était un site qui était presque illisible. Donc, avancer en faisant, se pénétrer dedans et se représenter l'espace pour le comprendre et le faire comprendre. Mais les maquettes, c'est un petit peu... avec en carton, comme c'est vraiment une maquette de travail qui permet tant complexe peut-être de la toucher et de l'approcher. Ça fonctionne quand même encore bien. C'est peut-être un peu obsolète, mais ça fonctionne encore très très bien. Je crois que c'est en étant abstrait, c'est un peu comme jouer, on peut l'approcher, on peut tourner, on peut toucher. Je pense que ça fonctionne bien comme support de dialogue avec le public. Un GMA très 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 grossier, des difficultés de voisinage avec un projet d'hôtel 5 étoiles qui voulait élever des barrières, enfin ce qui explique le long processus. Et puis la maison ici qui se reconstruit avec en intégrant un passage et avec deux très beaux logements. Donc le passage est créé avant le parc, le voisinage aussi s'améliore. Donc ici, le fait de la durée, qui était quand même sensiblement longue, a apporté du positif. Mais heureusement, les habitants ne se sont pas découragés. Donc l'hospice a été restauré et on a pu opérer des échanges de terrain qui nous ont donné une forme de terrain beaucoup plus appropriable. Et pouvoir envisager ici alors le passage du point haut, les 19 mètres de dénivelé, et avec en partie intermédiaire, vous avez vu les ruines d'un pavillon qui devient un peu un petit élément repère et un élément d'identité. Composant, je vais passer très très rapidement parce que le temps presse, donc... Encore une fois, la topographie est vraiment un élément très déterminant. On voit les zones claires qui représentent, là on travaille vraiment sur un talus et qui représentent des zones de moindre pente, donc appropriables. Du benchmarking. Ça c'est une manière de tracer les chemins, les parcours. Donc eux s'inscrivent vraiment dans la topographie avec la liaison avec la grande plateforme transversale et des espaces de repos à l'entrée, enfin une placette ici à l'entrée, plus un espace ici central. Central autour du pavillon, ce qui crée finalement des espaces de rencontre dans la partie haute, dans la partie basse et rencontre les objectifs formulés au départ du projet. Je passe rapidement sur la nature aussi des différents réseaux qui sont traduits par les matériaux. La végétation existante, vous avez vu qu'elle était foisonnante, donc on a plutôt travaillé un peu par soustraction en maintenant la végétation, les reboisements spontanés en ensemble, en ensemble un peu plus sauvage. Voilà, les éléments maintenus. La végétation du projet, elle vise toujours surtout à accompagner et à renforcer certains points stratégiques et surtout accompagner aussi les pourtours de l'îlot, puisqu'on est ici, c'est une sorte d'enclave à l'intérieur de l'îlot et donc accompagne les clôtures, les espaces de limite. Avec une végétation indigène et porteuse de fleurs, aussi de petits fruits. Au niveau de la gestion, on intègre aussi toujours très très vite les services des plantations pour l'entretien, même déjà dès avant le chantier, ils ont combattu les invasives, les polygonomes qui étaient présentes et qui nous ont causé quand même pas mal de tracas, qui sont toujours là, mais que la lutte se poursuit. L'enclos, les limites périphériques, ça c'est une question très très sensible, parce que le fait de créer un espace public dans un intérieur d'îlot a suscité l'inquiétude des riverains. Donc il y a eu les prémices du projet, le contact avec les riverains a toujours été maintenu. Il y a eu différentes séances à différents stades d'élaboration du projet. Il y avait vraiment de fortes inquiétudes, de risques d'intrusion principalement. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi dans le projet, on a porté vraiment une attention à restaurer les murs. Ce n'était pas toujours une mince affaire, donc, pour vraiment répondre à leurs attentes. On voit ici, on est dans un enclos, mais on voit les relations, disons, différentes avec les riverains, soit au travers, par l'arrière, donc les relations ne sont pas du tout les mêmes. On a intégré des éléments qui forment écran par rapport, un écran visuel, qui formeront un écran visuel par des plantations. Par contre, côté rue, il y a vraiment eu une interaction avec le parc, un contrôle social qui, et il n'y a pas de sentiment d'intrusion de la part des habitants à l'égard d'intrusion visuelle à l'égard des usagers du parc. Alors, le fameux mur de la rue Loss, le mur qui donnait au jardin tout son mystère, il a été conservé, il devait être conservé, mais on a aménagé quand même des entrées. L'idée, c'est quand même aussi de garder la fermeture de cet espace-là. Donc, il y a des gardiens qui ouvrent et qui ferment le parc à différentes heures. Et comment traiter finalement cette clôture en rendant aussi l'espace attractif. On a travaillé avec du métal déployé qui a la particularité dans sa forme d'offrir, suivant la manière dont on le regarde, une grande ouverture, et plus progressivement, suivant la position, il y a une certaine dynamique, l'espace se referme. C'est un peu le principe de la dentelle, en fait, hein, dont vous connaissez l'impact en matière d'attractivité. Donc, on a ici le portail secondaire aussi, qui joue à la fois fermeture et transparence. Voilà. Les petites placettes aussi dans la partie basse, avec un mobilier assez élémentaire, mais aussi des bancs classiques et des espaces de jeu qui sont associés. Les vues, ça ne coûte rien et c'est vraiment souvent ce qui fait l'attractivité d'un terrain ou d'un site. Donc on les a bien repérés parce que c'est un espace clos, mais en même temps, là, la topographie permet justement au regard de s'élever, de partir très très loin de l'autre côté de la vallée de la Légia, ou alors on a des relations internes de partie à partie dans le parc qui sont assez intéressantes et des interactions agréables. Les lieux d'activité aussi donc ont été positionnés en fonction des parcours, en fonction de la topographie, en fonction de la végétation, de tout ce qui précède, avec la placette, on en a déjà parlé. Les jeux qui sont répartis dans l'ensemble du parc en utilisant la déclivité, des éléments très très simples. L'élément peut-être important, c'est le jardin collectif qui se trouve justement, qui se trouve ici, et qui a été positionné là parce qu'un espace un petit peu qui pouvait être isolé comme une poche, et puis qui créait un peu une transition entre les jardins plus privés et les parties plus publiques. Donc ce n'est pas une image ou une envie qui est venue comme ça dans le projet, c'était vraiment une volonté des habitants. Il y a un collectif qui s'est constitué, appel à candidature, etc. Et avant la fin du chantier, le jardin était quand même déjà approprié. Donc, je vais passer rapidement sur la partie supérieure parc. Le pavillon qui sert d'abri pour les outils des jardiniers, qui est muni aussi d'une citerne d'eau de pluie, eau, électricité, enfin tout ce qu'il faut pour fonctionner. Et voilà, le jardin est vraiment un lieu de sociabilité, c'est vraiment le poids d'attraction du parc, même si on a eu des difficultés, terre polluée à remplacer, et aussi des soucis de vandalisme, de vol, etc., qui découragent. Mais il est victime, enfin, pas victime de son succès, il y avait 36 candidatures pour 200 mètres carrés. Donc, il se partage des petits bouts de 2 ou 4 mètres carrés. Mais l'important, c'est d'être là, de se rencontrer, des jeux aussi vraiment qui joue avec la topographie du lieu, avec finalement assez peu de choses. Et puis aussi, on peut ne rien faire. Ça passe rapidement, mais je pense que l'important aussi dans une démarche sur la durée comme ça, c'est d'avoir un porteur de projet à l'échelle du quartier qui assure la continuité, qui va chercher les opportunités et qui peut... notamment de financement, qui fait aussi l'interface avec le quartier sur toute cette durée-là, c'est essentiel. Et puis le chantier est aussi un lieu où on peut continuer à dialoguer, à adapter le projet. Le projet, il n'est pas fait uniquement par le dessin, il est fait par les matériaux. Voilà, les habitants, les politiques, mais aussi les habitants surtout, ont pris possession du parc. Donc une petite oasis ici, un petit peu privilégiée et assez bien appréciée au cœur du quartier. Il n'y a pas que des oasis privilégiées. Je voulais juste lancer peut-être parler d'un gros tracas. C'est finalement l'espace public victime de son attractivité, les espaces du centre de Liège, on l'a déjà évoqué dans les coins de rue, etc. Ils ont tendance à quelque part se remplir. Il y a une sorte de phénomène d'entropie comme ça qui joue au point que bon, ça tue quasiment l'espace. Il y a quelque part, on constate très souvent peur du vide, on crée des espaces dégagés. Et puis non, il faut l'aménager, il faut mettre des trucs, mais en fait. C'est gênant quand ça s'installe sur la durée, c'est vraiment intéressant qu'il y ait des appropriations, des événements. Le syndrome du village gaulois, c'est peut-être une spécialité liégeoise, mais c'est que quand on fait un marché de Noël, un événement, on met des tonnelles et on renferme ça autour d'un centre. Et quelque part, pour les architectes, on aménage, on crée des relations aussi avec ce qui fait la beauté des places du centre-ville. Et puis là, il y a vraiment une sorte de négation comme ça. On referme l'espace autour de soi. Il y a des villes où ça se passe autrement. Liège, c'est souvent comme ça. Les logiques parallèles aussi, et les réseaux. Chacun plante qui ses poubelles, qui ses arbres, qui son éclairage public, etc. Et puis la multiplication des réseaux, et puis il y a les appropriations exclusives, la privatisation sous prétexte d'animation et de faire vivre le centre-ville par des activités parfois commerciales, mais ça prend vraiment des dimensions exagérées et qui on multiplie les clôtures et les ségrégations, quoi. Donc c'est vraiment un souci, voilà, un espace ici, il est peut-être propre, mais enfin il y a vous avez tout qui est des appropriations qui se développent de plus en plus jusqu'à laisser le passage très très limité. Voilà, je vais peut-être voilà, on n'est pas fiers de ça. Centre culturel de Liège, donc c'est pour ça que bon. Il a été décidé aussi de faire quelque chose, donc c'est le dernier projet sur lequel on est en train de travailler. Donc vous voyez le plan avec tous les réseaux qui sont en souterrain, outre tout ce qu'il y a. Donc on essaye d'intégrer la complexité des usages et la conception. Faire le lien entre aménageurs et gestionnaires, je pense que ça se fait de plus en plus au niveau des gestionnaires de réseaux. Il peut y avoir une certaine dématérialisation par les évolutions technologiques, quoique il y a quand même pas mal de fibres optiques qu'on veut quand même installer en sous-sol. Et puis les appropriations exclusives, la privatisation, il y a des limites à mettre, des mesures réglementaires. Dans le cas ici, des mesures sont prises par le collège, elles ne sont pas toujours respectées, donc on va quelque part essayer de traduire physiquement ces limites discrètement dans leurs vêtements, de manière à pouvoir détecter les dépassements. Ce sont bien sûr des mesures de police, voilà. Alors voilà, ça prendra un certain temps. Je vous ramène ici au calme de la place de l'Isère et puis j'en trouve la boîte à outils. Un peu trop tôt, mais... Voilà. Merci.